Bienvenue au Paillard Club, là où chaque coup compte. Au programme, débats, pronostics et débriefs de combat, interviews, mais aussi retours nostalgiques sur les plus grands moments des arts martiaux mixtes. Paillard Club, l'émission qui décrypte l'actualité MMA, c'est maintenant et jusqu'à 20h sur Prune.
Bonjour à toutes et à tous, on est en direct de Prune pour une nouvelle émission du Bagarre Club, bienvenue à toutes et à tous. Une nouvelle émission du Bagarre Club, un mardi de plus, pas un mardi de trop. L'équipe est au complet, Nora est avec nous, comment vas-tu Nora?
Ça va très bien, merci, et toi?
Eh bien écoute, ça va à merveille en ce mardi ensoleillé.
On
tout simplement,
ravis.
Exactement.
On est très content.
Ouais.
Très,
Lounis
très content.
Est également avec nous. Comment vas-tu, Lounis?
Ça va très bien.
En forme?
Tout à fait.
Pleine forme, on
ça
a une belle
va.
Émission.
Ouais, on est prêt.
Ouais. Et celui avec qui il y a toujours un truc, soit il arrive 3 minutes à l'avance, soit il est pas là.
Soit il
Hugo
nous envoie des.
C'est ça,
des
Hugo,
là,
si
Mars.
Hugo est là sans être là. Hugo est avec nous au téléphone en direct du Finistère. Comment vas-tu, Hugo?
Ça va très bien, on télétravaille aujourd'hui.
Exactement.
Voilà, je suis quelqu'un de moderne, je m'adapte à toutes les situations.
Alors, si Hugo est dans le Finistère actuellement, c'est parce qu'on l'envoyait sur place faire des reportages pour... Non, c'est pas vrai, il est juste...
C'est juste un gros flemmard qui se déplace pas, c'est
il
tout,
il est juste en vacances. Mais
il fait
l'effort quand même de faire l'émission avec nous, donc, voilà.
On le salue pour ça.
Exactement. Au programme de l'émission, du coup, on va revenir un petit peu, faire une petite preview de l'UFC 301 qui aura lieu donc ce week-end à Rio de Janeiro,
tout
au Brésil.
Au Brésil.
Tout à
un
fait.
Un accent absolument incroyable.
Merci beaucoup. J'ai beaucoup pratiqué
ouais,
le jeune fan de Ronaldinho.
voilà. Les après-midi sur FIFA.
Exact. Exactement. voilà, on va parler un petit peu de l'UFC 301. Il y a quelques combats intéressants, notamment le français William Gomis, qui va être sur la carte, donc il y a des choses à dire. Ensuite, ça faisait longtemps qu'on s'en était pas fait un, mais petit quiz concocté par Lounis.
Tout à fait.
Donc Hugo, même s'il est loin, il va pouvoir m'affronter pour essayer de venir récupérer ma ceinture, car on rappelle que je suis actuellement...
Le Undisputed Champion du
Exactement.
Bagarre Club,
avec Exactement.
Deux défenses de ceinture.
C'est ça, et je vais chercher la troisième aujourd'hui. Et enfin, on terminera l'émission par un petit débat, une petite discussion à propos de la transition des combattants de kickboxing ou boxe thaïlandaise
Tout à fait, ouais.
Vers le MMA et un petit peu ce que ça implique quand on est combattant
oui.
Pour passer dans le MMA tout simplement. Voilà un petit peu pour le sommaire. Donc sans plus attendre, on va commencer avec les actus.
How much can you know about yourself if you've never been in a fight?
Les actualités MMA de la semaine dans le Bagarre Club.
L'UFC 301 au Brésil, c'est ce week-end, dans la nuit de samedi à dimanche. Et pour cet événement, on a déjà un petit Français qui va combattre. Il a déjà combattu deux fois à l'UFC Paris, ça sera son quatrième combat
ouais.
à l'UFC.
Ouais.
William Gomis qui est sur la carte. Lounis, qu'est-ce qu'on attend de ce combat un petit peu? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de son adversaire? Qui il affronte? Quelle est la forme actuelle de William Gomis?
Tout à fait. Alors William Gomis, donc déjà pour restituer notre français, c'est donc un striker, un jeune striker qui s'est illustré au cours des deux UFC Paris. Alors je ne sais plus pour le premier, mais pour le second, il avait gagné grâce à un KO technique suite à un coup au foie, un kick au foie, sauf erreur ou quelque chose. Avoisinant. Il est justement connu pour son agilité, sa grande vélocité, justement son striking qui est très très abouti et très précis. Et en face, tu vas pouvoir m'aider parce que j'ai oublié le nom de son adversaire.
Jean Silva.
Voilà, Jean Silva, qui a le nom le plus brésilien du monde, mais peu importe. Mais Jean Silva, en revanche, je connais son palmarès. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il me semble que William Gomis a 12 victoires.
13 victoires de défaite.
13 victoires de défaite et son adversaire a quasiment le même chose.
12 victoires de défaite.
Voilà. Et ils ont un style d'ailleurs de combat qui est très très assez jumeaux, assez similaire. Ouais.
La grosse différence majeure, je trouve, un des avantages pour William Gomis, donc ce sera en poids plume.
Oui.
Donc la catégorie dominée par Ilia Topuria.
Oui.
Et la différence un peu marquante, c'est la différence de taille et d'allonge. William Gomis est beaucoup plus grand que son adversaire, 1m83 contre 1m70.
Oui, oui.
Et même au niveau de l'allonge, il y a 10 cm d'écart. Donc pour quelqu'un très bon en striking comme William Gomis, ça peut vraiment être un avantage voilà, pour maintenir la distance et réussir ça à peut, toucher
oui,
sans
oui,
se faire toucher.
Bah, on l'a vu plus récemment dans, chez les poids coqs, hein, mais entre Sean O'Malley et Marlon Vera, qui était tout de même Marlon Vera, qui était quand même un très très bon striker, mais qui a difficilement pu en placer une face à Sean O'Malley, tellement l'allonge de Sean O'Malley lui a porté préjudice pendant tout le combat. Quoi. Il était incapable de casser la distance et de s'approcher. Et peut-être qu'on aura justement une situation similaire entre Jean Silva et donc William Gomis.
Hugo, on t'oublie pas. qu'est-ce que toi, tu attends un petit peu de la performance de William Gomis? Pour toi, quelles vont être un petit peu les clés de ce combat?
Je pense qu'il va faire ce qu'il sait faire d'habitude, c'est-à-dire du kickboxing. C'est quelqu'un d'assez complet, mais quand même basé sur tout striking. Donc, j'attends pas un gros changement en termes de style, quoi. Je pense qu'on va rester sur quelque chose de basique chez William Gomis.
Ouais, on garde la feuille de route habituelle, quoi. Surtout qu'en plus, ça lui a plutôt réussi ses derniers combats, parce qu'on rappelle, il a sur ses trois combats à l'UFC, il est sur trois victoires. Donc c'est quand même
deux par décision, une par
tout à fait. D'ailleurs, c'était contre Yanis Bounganem, je crois, un autre français.
Yanis Gemouri, pardon.
La victoire était un petit peu controversée. Enfin, je crois que ça a été considéré comme un arrêt prématuré, mais.
Ouais. Mais victoire quand même.
Mais victoire tout de même de William Gomis, peu importe.
Voilà. Donc, William Gomis, qu'on attend, qui fait partie un petit peu de ces têtes d'affiche françaises. Ouais. Il fait partie notamment des 5 premiers héros, on va dire, de l'UFC Paris. Donc, les 5 combattants français qui avaient gagné leur combat lors du tout premier événement en France, qui était quand même assez mémorable. Oui. Donc, c'est pour ça, depuis cet événement, il y a une petite attache particulière entre lui et le public français.
Oui. Et puis, alors si je puis me permettre, vis-à-vis de William Gomis, un peu à l'instar de Benoît Saint-Denis contre Matt Frevola au Madison Square Garden, là, William Gomis a envoyé, concrètement en territoire ennemi, c'est-à-dire au Brésil, face à un public qui est quand même contre lui. Et on a vu dans le cas de Benoît Saint-Denis, qui a battu Matt Frevola par un KO, dès le premier round.
Oh oui, premier round.
Ouais, c'était ça. Alors, admettons que William Gomis arrive justement à placer un KO mémorable contre Jean Silva, ça pourrait peut-être justement donner envie à l'UFC de le propulser plus haut dans les classements, de sorte justement à faire évoluer un petit peu la catégorie des poids plumes qui là justement avec l'ère Topuria est sans doute en train un petit peu de changer et de se revitaliser.
Bon, on sent clairement que William Gomis il a une carte à jouer un petit peu dans cette nouvelle génération de poids plumes. Donc voilà, Hugo, je vais te demander un petit peu ton prono sur ce combat. Qu'est-ce que tu aimerais voir?
Alors il y a une différence que je pense qu'il va arriver. Je suis influencé, hein, moi, mes pronos sont toujours influencés, ils sont jamais objectifs, ça on commence à le savoir.
De toute façon, c'est les pronos, on s'en fout, on peut être subjectif.
Moi, je vais dire William Gomis par décision, je pense.
Ouais, victoire en maîtrise, globalement.
Ouais, voilà, de domination claire, pas forcément écrasante, mais voilà, de quoi faire le boulot.
Ok, j'avoue, j'aurais vu un petit peu pareil. Mais je vais aller sur autre chose, du coup, pour avoir un petit peu de contradiction. Je sens peut-être un premier accro pour William Gomis, peut-être. Un Jean Silva qui peut être porté un petit peu par son public. Après, il faut le dire, il va y aller William Gomis.
L'œil.
Non, mais je sais pas. Justement, tu vois, c'est l'effet inverse. Donc, je sais pas. Je vais aller sur victoire de Jean Silva par décision, mais après un combat équilibré. Voilà. Lunis,
j'ai envie d'y croire, je vois bien un KO technique de William Gomis au second round, tiens.
KO technique de Gomis au second round, c'est osé.
Ça me semble pas improbable.
Ce serait beau, effectivement. On va parler d'un autre combat donc, de cet événement, on va parler du co-main event. Le co-main event, pourquoi il est intéressant? On a Jonathan Martinez contre José Aldo.
Oui.
En termes de classement, c'est pas les mieux classés, loin de là. Mais José Aldo, Hugo, je vais te lancer, tiens, pour pas te laisser trop sur le côté. Peux-tu nous dire un petit peu l'histoire qu'il y a autour de José Aldo?
José Aldo, c'est un peu, pendant très longtemps même encore maintenant plus ou moins, il a été dans la discussion du GOAT de la catégorie featherweight, c'est-à-dire que
donc les poids plumes.
Comment?
Les poids plumes.
Oui, les poids plumes, c'est ça exactement. Donc en fait, pendant très longtemps, et même maintenant, on se demande si ce n'est pas le meilleur combattant à avoir jamais combattu en featherweight. Et en effet, avant de combattre un certain Irlandais avec beaucoup de tatouages et une grosse barbe, qu'on ne nommera pas, mais qu'on connaît tous, il était considéré comme invincible. C'était un peu c'était un peu le Kamaru Usman pour ceux qui sont un peu plus qui sont un peu plus récents dans ce sport. C'est un peu le Kamaru Usman de l'époque, quand Kamaru Usman semblait encore invincible. Et en fait, on pensait qu'il était invincible et il a perdu face à Conor McGregor, ce qui a un peu propulsé.
C'est pris un KO en
13 secondes.
Ouais, voilà, c'est ça. Ouais.
Alors que
on le sentait invincible.
Voilà, c'était un excellent striker avec une très bonne défense de lutte, ce qui faisait qu'en fait, on avait l'impression que c'était le meilleur style pour le MMA et il a eu quelques revers depuis. Ouais. J'ai pas son palmarès exact en tête depuis.
Il s'est bien défendu. Hein. Il a affronté les meilleurs. Il a fait ensuite une descente chez les bantamweight où il a d'ailleurs affronté Petrian pour le titre des bantamweight. Petrian a eu raison de lui, mais non, José Aldo a malgré tout, après sa défaite contre Conor McGregor, il a quand même essayé de revitaliser sa carrière, il s'en est plutôt pas trop mal tiré.
Et il avait pris sa retraite avec la naissance d'un de ses enfants.
Voilà. Et justement, tout est lié, parce qu'il avait pris sa retraite sur la même carte où Kamaru Usman s'était pris un KO par Leon Edwards, après son combat contre Merab Dvalishvili. Ouais. Voilà. Et du coup, il avait pris sa retraite. Et il est de retour.
Eh oui, voilà, alors qu'il a été introduit à l'UFC Hall of Fame, donc au temple de la renommée de l'UFC, il est quand même de retour dans la cage.
Voilà, et là, du coup, retour de José Aldo, donc petit palmarès comme ça, 31 victoires, 8 défaites, c'est très, très, très c'est monstrueux. J'allais dire c'est correct,
mais c'est exceptionnel. C'est monstrueux, faut dire ça.
Voilà, tout simplement, surtout qu'en plus, il a affronté beaucoup de gros
quasiment
combattants.
Que les plus grosses têtes de l'organisation. Voilà.
Et il va affronter du coup Jonathan Martinez. Est-ce qu'on a envie de croire à José Aldo, 37 ans, un retour vraiment en force, quoi, un retour spectaculaire?
Alors si je peux me lancer dans un premier temps, je ne pense pas. C'est-à-dire que s'il arrive à vaincre Jonathan Martinez, ce sera joli, ça ferait une belle soirée, on va dire un beau symbole, mais pour un retour au top, que ce soit chez les bantamweight et encore plus chez les featherweight, il ne faut pas trop y croire.
Bon, il est trop 15, âgé. Quand même. Hein.
Quand je disais un retour en forfait, je pensais vraiment sur ce combat-là, quoi.
Ah,
qui offre une belle fête à ses spectateurs.
Mais tout comme son combat, oui, je pense, ça c'est possible. C'était déjà le cas contre Pedro Munhoz, où voilà, on avait eu un retour du José Aldo vintage avec les low kicks, la totale. Et donc oui, non, ce serait pas impossible. D'autant que le style de Martinez justement est assez similaire à celui de José Aldo. C'est deux combattants qui aiment énormément utiliser les kicks. Donc on pourrait vraiment avoir un combat assez spectaculaire et assez intéressant.
Hugo, qu'est-ce que t'as envie de voir de José Aldo ce samedi?
Moi, j'ai envie de voir du grand José Aldo, hein. Mais comme a dit Lounis, moi ça m'étonnerait pas que là, comme tu l'as dit. Il y a encore pas si longtemps, il a combattu il y a encore pas si longtemps, donc en 2022, en août 2022 très précisément, j'ai les dates sous les yeux.
Ça fait moins de 2 ans.
Voilà, ça fait moins de 2 ans même, mais presque. Il avait perdu face à Merab Dvalishvili par décision.
Il y avait quand même une classe d'écart entre les deux.
La fraîcheur de Merab.
Voilà.
Rappelons que Merab, dans quasiment tous ses combats, on a l'impression qu'il y a une classe d'écart entre On avait l'impression qu'il y avait une classe d'écart entre
lui et
Petrian et lui. Alors que Petrian était considéré comme le champion de la catégorie qui avait eu des vers mais qui allait revenir.
Tout à fait.
À ce moment-là. Et enfin, je veux dire, j'ai son palmarès sous les yeux, hein, comme je l'ai dit.
Ces derniers combats en date.
Voilà, ces derniers combats, il a quand même battu Marlon Vera, Pedro Munhoz et Rob Font, qui sont quand même costauds dans la catégorie.
Ouais, tout à fait.
Voilà, Jonathan Martinez qui est 12e si je me rappelle bien. Ça me paraît pas être
insurmontable.
Du menu fretin pour José Aldo si la pause de 2 ans ne lui a pas trop porté préjudice.
Exactement. Nora, t'avais une petite question.
Oui, parce qu'en fait, je vous entends parler et si je dis pas de bêtises, je vous le trouve un petit peu mitigé finalement sur le retour de ce combattant José Aldo.
Il est vieux en fait, c'est surtout ça.
Et en fait, ma question concernait les derniers combats qu'il avait eu, donc qui remontent à 2 ans. Mm-hmm. Alors, c'est vrai qu'en fait, on peut avoir du mal à se rendre compte, est-ce que dans le sport de combat, c'est long ou pas? Ouais, donc ça permet
de... surtout dans le MMA, ouais.
C'est
ouais.
long, mais il y a eu des retours plus longs oui. qui ouais. ont été succès. Ouais. Qui ont
mais
été,
est-ce qu'en fait, ces dernières performances, donc il y a à peu près 2 ans, étaient décevantes et vous amènent du coup à douter que bah, là, il pourrait être en difficulté face à.
Il était sur 3 victoires en 4 combats.
3 victoires en.
Sachant que sa dernière défaite, c'était contre son dernier combat.
José okay. Aldo, même quand il perd, donc là on parlait de Merab Dvalishvili, en fait il est jamais ridicule, ça reste José Aldo, ça reste l'un des meilleurs combattants je pense. Honnêtement, c'est impossible de pas l'inclure au moins dans le top 15 des meilleurs combattants de tous les temps, forcément. Mais pourquoi revenir? Qu'est-ce qu'il a encore à prouver en
Moi,
fait.
Je pense qu'il a envie de faire une dernière performance devant son public.
Je pense qu'il voulait, voilà, il voulait retourner à Rio oui, une dernière fois face à son public. Mais...
entre deux combats, c'est-à-dire que
non, il avait déposé ses gants après Merab.
Ah bon?
Ah ouais.
Il a été champion déjà.
Oui, il était champion des poids plumes pendant longtemps.
Okay, ah, parce que moi j'ai entendu.
Ouais, donc il a pas grand-chose à prouver finalement. Son enfant. Il a pas grand-chose à prouver.
Non, mais justement, c'est pour ça, je pense, son retour. En plus, ils ont mis un combattant qui est certes bon, mais qui est pas non plus un tueur à gages, un petit peu pour le faire briller, pour essayer de lui mettre quand même un minimum de challenge, mais qui est à sa portée, pour, à mon avis, lui offrir une dernière belle fête face
et en
à son
face,
public.
C'est ça, si jamais Martinez arrive à s'imposer, pour Martinez, c'est plutôt chouette pour la suite de sa carrière, parce qu'il met quand même à son palmarès José Aldo. Vieux, voilà, mais comme José Aldo.
Mm-hmm. Voilà. Et alors, pardon, dernière question, et après, je me calme. Mais quand vous parlez de vieux combattants, parce qu'encore une fois, je pense que c'est très relatif, il a quel âge?
37 ans.
Bah, quand
c'est terrible quand même de dire.
Non, mais quand tu passes, honnêtement, quand tu passes 33 ans en MMA, ouais, tu commences à te faire vieux.
Ouais. Mais oui, mais comme.
Il y a la barre symbolique des 35 souvent aussi.
Ouais, ouais.
Voilà. Comme mais beaucoup même avant, de sports, le football, c'est à peu près la même chose, si je dis pas de bêtises, mais c'est des carrières qui sont compliquées. Quoi.
Voilà, c'est ça. Voilà du coup un petit peu ce qu'on pouvait dire sur le retour de José Aldo. On va parler d'un dernier combat pour cette UFC Brésil. Les poids mouches, toujours un spectacle à voir.
C'est toujours amusant, ouais.
Exactement. Un de mes petits, de mes dernières bonnes découvertes en combattant, c'est Alexander Pantora qui combat, qui défend sa ceinture, qui est un combattant très complet, très beau striking,
il est bon partout.
Il est dynamique, il a une résilience aussi mentale.
Une endurance qui est quand même complètement dingue.
Voilà, et qui va affronter le petit prince de la catégorie, on peut dire, Steve Herzeg, qui est un gros lutteur, qui a un très très gros sol. Donc, challenge, évidemment, challenge pour mon petit champion. Qu'est-ce que vous voyez un petit peu de ce combat, les gars, rapidement, parce qu'il ne nous reste pas énormément de temps si on veut être dans les temps. Lounis, vas-y.
Moi, je vais être très clair, je pense que Steve Herzeg, malgré son très gros niveau en lutte, a pas l'endurance pour tenir 5 rounds face à Alexandre Pantora, qui est habitué à des énormes guerres, quand même.
Bah, ces deux derniers combats contre Moreno, contre Royval.
Ça dure très très longtemps, c'est très très complet, et je pense pas que Steve Herzeg, pour le moment, soit capable de tenir aussi longtemps face à lui.
Hugo, un petit avis sur ce combat, qu'est-ce que t'attends? T'attends un spectacle?
Bah, honnêtement, je dirais pas mieux que Lounis. Bah déjà, Herzeg, il a un peu un title shot parce que les...
Parce qu'il n'y a personne.
Voilà, il n'y a pas grand monde. Quoi.
C'est la catégorie des poids mouches, donc la plus légère chez les hommes. Et c'est vrai que ce n'est pas une catégorie qui est très fournie actuellement. Mmh. Et qui ne l'a jamais été historiquement. Parce que déjà,
tous les combats sont exceptionnels. Mais ouais, c'est un peu... je crois que c'est un peu un concours de circonstances où... bah, il y en a à qui on va pas donner le title shot parce qu'ils sont sur une défaite. Il y en a, ils ont pas combattu depuis assez longtemps, depuis un petit moment. Brandon Moreno, on va pas lui redonner un title shot parce que
Mais il a perdu en plus récemment contre. Il a fait un autre combat Moreno contre, je sais plus.
Royval.
Royval, ouais, c'est ça. Il avait perdu contre Royval, donc on pouvait pas mettre Royval parce qu'il venait de perdre contre Pantora, donc.
Voilà.
Donc ça l'aurait pas fait.
En fait. Al-Bazi, je me demande s'il n'a pas un combat de prévu. Enfin,
Al-Bazi, le problème, c'est qu'il a beaucoup d'annulations sur ses derniers combats.
Ah.
Donc, ouais, voilà.
Donc en fait, le top 5 de la catégorie, c'est compliqué. Donc en fait, ça se vide très vite. Et la personne la plus méritante, on va dire, il y avait Mohamed Mokaef aussi. Mais il doit être blessé, je crois, ou un truc comme
mais
ça.
Mais du coup, pour le coup, c'est pas pour dire que. Alors, certes, il est plus bas dans les classements, mais on en a déjà vu des mecs plus bas qui battent le champion. Même dans les catégories les plus relevées. Exemple, Islam Makhachev qui va battre Charles Oliveira, qui était classé 12e Makhachev à l'époque.
Voilà.
Donc, on est un petit peu dans le même cas de figure.
Il y avait un truc assez méta
symbolique
méta combat où en fait c'était le successeur de Khabib.
Voilà, c'est ça.
On avait l'impression qu'il était meilleur que lui et il défonçait tout le monde dans la catégorie. Steve Hersegg, il y a beaucoup moins cette aura
oui, c'est
exceptionnelle. Bah,
déjà, la catégorie est beaucoup moins mise en lumière par l'UFC, donc,
Steve Hersegg, on va pas se mentir, voilà, ça va être mon avis un peu controversé, c'est un peu un combattant yaourt nature. Hein. Première fois que j'en entends parler.
Ça, c'est mon expression, ça.
C'est pas mal, ça.
Ah ouais, ben, je la vole et je m'en fous.
Ouais. Non, mais ouais, pourquoi
pas. On a droit au Hugo subversif ce soir.
Après, on va attendre le combat. Hein. On est pas à l'abri d'avoir une belle surprise, évidemment. Surtout que les poids mouches, c'est un peu réputé pour un peu tourner en termes de champion. Voilà, ça change assez souvent. Donc, un petit prono, les gars. On a un petit peu de temps. Dites-moi.
Oh, Pantera par vous savez quoi, Pantera par soumission.
Ouais, quel round?
Troisième.
Troisième round?
Ouais.
Hugo,
ça, tu fais chier, j'aurais voulu mettre la même. peut-être pas au même round, mais... Non, mais moi, je vais dire... Pantoja par... Allez, on va prendre des risques, je vais dire par KO, deuxième.
Ok. Moi, j'allais sur jamais 203, Pantoja par décision après une troisième guerre d'affilée pour le titre. Donc, qui nous offre encore un potentiel combat de l'année. Voilà, ça me plairait bien de voir ça.
Bah non, mais... Probable.
Je pense que l'adversaire est pas assez...
Ah, attention. Attention.
On a eu des surprises.
Moreno, il y avait vraiment du très très gros niveau.
Ouais,
Roy Ball, c'était vraiment bien aussi. Hersegg, je sais pas s'il a un striking assez impressionnant pour faire une vraie guerre, tu vois.
Ouais, bah écoute, réponse dans la nuit de samedi à dimanche.
Voilà,
tout simplement. Voilà donc un petit peu pour les actus, donc qui tournent évidemment autour de l'UFC 300 qui aura lieu au Brésil, donc début samedi soir en française à minuit, minuit dans la nuit de samedi à dimanche, tout simplement. Et voilà.
On parle des autres combats rapidement parce qu'il y en a des autres quand même.
On n'a pas vraiment le temps, je vais pas te mentir. On en touchera un mot en débrief la semaine prochaine, je pense. Voilà.
Ouais.
Mais c'est vrai qu'il y a Anthony Smith, Victor Bellerino, voilà. On aura de quoi dire au débrief. On va se faire une première petite pause musicale. Nora, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce qu'on écoute?
Alors, on va faire les choses un petit peu différemment. Pour cette émission, on a décidé de mettre en avant un groupe local. On va s'écouter Vernipolis. Donc, c'est un duo nazérien composé de Peter et Kevin Kelly. Ils proposent des compositions qui oscillent à la fois entre l'électro francophone et du rock progressif. Ils ont récemment sorti un EP qui s'intitule Vernissage. Et on va vous proposer ce soir deux de leurs sons. Donc on va commencer par Le Sahel de Vernipolis.
Et bon, on s'écoute ça et on revient juste après. À tout de suite.
Courage déplanqué à traqués sont les cimetières. Des corps déshydratés qui de peur nous tordent et s'enlèvent les mains. Des urnes et sort le soleil et le sel qui nous manque encore et nous manquera demain. Nous brise le cœur, le sel et le miel. Le sel.
Club. On est de retour en direct sur Prune, vous écoutez le Bagarre Club, j'espère que votre soirée se passe bien en notre compagnie. On va démarrer un petit quiz, est-ce que tout le monde est prêt ici? Lounis, le quiz est prêt?
Moi le quiz est préparé.
Tu nous Hugo, as concocté
toujours
ça
là?
Ouais, je suis toujours là, ouais.
Ah, prêt, pour, prêt à perdre Hugo?
Ouais.
Ah bah c'est démarré.
Je mettrai une patate voilà. Quand je te verrai.
Écoute, ça va être difficile du Finistère.
Non, mais par contre, c'est acté, c'est en direct, voilà.
Ok, ça okay. Marche.
Cool.
Et bah, jingle quiz, et on commence, c'est parti. Jingle quiz, Nora.
Merci. Très bien.
Je l'aime bien ce jingle, moi.
Il est très sympa.
Il
ouais.
Pas mal.
Le It's Time, il fait toujours quelque chose. Hein. Voilà, alors Lounis, je te laisse la main donc, pour ce petit quiz.
Nous avons 14 questions, certaines dures, certaines un petit peu moins dures, mais globalement, c'est...
Très dur.
Non, globalement, c'est des questions assez simples, vous allez voir. Question 1. On va tester vos classiques. Chuck Liddell a été le champion des poids lourds légers de l'UFC de 2005 à 2007. Il était l'une des premières superstars de l'organisation. Il a notamment entretenu une rivalité avec... Laisse-moi finir la question, s'il te plaît, sinon on ne va pas s'en sortir. Randy Couture, Tito Ortiz donc, et Quinton Rampage Jackson. Néanmoins, laquelle de ces trois rivalités n'a pas abouti à une trilogie? Je les recite, Randy Couture, Tito Ortiz et Quinton Rampage Jackson.
Randy Couture?
Non, c'est pas Randy Couture.
Jackson.
Bien vu.
Ah, j'hésite entre
c'était Quinton Rampage Jackson. Quinton Rampage Jackson, qui a également, tout comme Randy Couture, a également eu une carrière d'acteur. Et il a notamment joué Barracuda dans le film L'Agence Touriste, qui est pas mal du tout d'ailleurs, je vous le conseille, mais d'accord. Peu importe.
Et ceux qui sont sortis récemment avec Bradley Cooper?
Tout à fait.
Ouais, okay,
voilà. Question numéro 2. Ça nous fait donc un point pour Hugo.
Ouais, vas-y, note Hugo.
Alors, faut ça, je note les scores, hein, mais je sais pas si. Okay. Voilà.
Parce qu'il faut savoir que Lounis, il a sorti un calepin.
Ah, mais oh,
c'est
le calepin, non, le Necronomicon.
Le truc, hein. C'est professionnel, attention.
Alors, question numéro 2. À nouveau, on parle de classique. Quel était le combat final de la toute première saison de The Ultimate Fighter?
Oh, j'en sais rien.
Alors, je peux donner quelques indices.
Vas-y.
L'un des deux combattants s'est pris un KO assez mémorable de la part de Anderson Silva et c'est pas Victor Belfort.
Un KO mémorable de la part
dans les highlights. Comment?
Forrest Griffin.
Oui, il y a Forrest Griffin, mais alors qui était son adversaire?
Alors là, moi, c'est l'époque où j'avoue, je suis pas assez.
Matthews.
Non.
J'avoue, je vais pas.
Ben Anderson.
Non. Vous passez sur celle-là?
Ah, je l'ai pas. Je l'aurai pas. J'avoue, moi, c'est pas la période où je suivais. Okay,
c'est pas grave. T'auras l'occasion de te rattraper.
C'est ça. Du coup, c'était quoi la réponse?
Alors, du coup, je vais la donner la réponse. Donc là, il y a zéro pour vous deux. Mais c'était Forrest Griffin contre Stephen Bonnar. Et c'était, par Dana White, il est souvent considéré comme le combat qui a vraiment propulsé, en tout cas aux États-Unis, le MMA comme un sport assez mainstream. C'est vraiment un combat de dingue. Donc, si vous avez l'occasion de le voir, regardez-le.
Tu peux redonner le nom, s'il te plaît?
Forrest Griffin contre Stephen Bonnar.
Ça marche. Merci.
Hop. Question numéro 3. Celle-là, elle est facile, mais va falloir essayer d'être rapide. Désolé, Hugo, mais elle n'est pas trop rapide, t'inquiète, ça va bien se passer. En comptant sa carrière en kickboxing, combien de ceintures de champion possède Alex Pereira?
4.
Alex a été plus court. Aurel a été plus rapide.
On va remettre le point, ouais.
Ah, mais moi, j'ai un décalage avec le téléphone.
Ah oui, c'est la fameuse latence du téléphone que personne ne connaît.
Non, je suis désolé, mais là, factuellement, je vous ai entendu le dire quasiment en même temps, mais c'est Aurel qui a été un tout petit peu plus rapide, donc je vais donner le point à Aurel.
Ouais, je te dis, il y a une latence. Bon, c'est pas grave.
Vous c'était avez bien un tenté, partout. Hugo, mais ça
vous avez un partout. Jusqu'à présent, vous avez un partout. Alors, question numéro 4. En 2017, à l'occasion de l'UFC 210, Kamaru Usman affronte en welterweight, et évidemment sans le savoir, un des futurs champions middleweight de l'UFC. De qui peut-il bien s'agir?
Sean Strickland.
Tout à fait, c'était Sean Strickland.
Ah, bien joué.
Sean Strickland qui a concouru donc, pendant un moment en welterweight et qui a donc affronté Kamaru Usman et évidemment qui a perdu.
Welterweight, c'est dans Breaking Bad?
C'est marrant ça.
C'est marrant. En fait, Aurélie, il est sûr de te référence.
Moi, je rigole pas, je suis concentré.
Oui, vas-y, concentre-toi.
Alors, attends un petit instant. Voilà. Question numéro 5. Celle-là, normalement, vous devriez la voir. Quel était le co-main event du tout premier UFC Paris?
Vettori Whittaker.
Tout à fait. C'est un point donc pour Aurel.
Et vous égalisez.
Je vais pas te lâcher.
Alors, attendez. Oui. Tac, tac, tac. Ah. Lequel de ces trois combattants russes, donc c'est la question numéro 6, lequel de ces trois combattants russes a été reçu en personne par Vladimir Poutine? Fedor Emelianenko, Khabib Nurmagomedov ou Petryan?
Nurmagomedov.
Bien vu.
Ah, j'y pensais aussi.
Alors après, si je vais être tout à fait honnête, Vladimir Poutine avait également félicité Fedor Emelianenko, mais il a eu aucun rapport avec Petryan. Et c'est effectivement Khabib qui avait été reçu par Vladimir Poutine suite à ses victoires sur Conor McGregor et Dustin Poirier. Question numéro 7. Alors, avant sa défaite expéditive en 13 secondes face à Conor McGregor, depuis quand durait la série d'invincibilité de José Aldo?
5 ans.
Je veux une date et une. Une date, au moins une année et une. Une série, c'est-à-dire 9, 10, 8 ans.
2010.
Vous n'y êtes pas tous les deux.
Alors attends, c'est quelle année qui se prend le KO? C'est 2015.
On est en 2015, ouais, quand
ouais,
il
2015.
Se prend le KO.
Ouais. Moi je vais dire.
Moi je vais dire 2011.
Moi je vais dire 6 ans depuis 2009.
C'est vos réponses définitives?
2010. Non. Vas-y, je pars sur 2010.
2010, ouais, donc 2010 pour Aurel. Et toi, Hugo, combien tu mettais?
Moi je vais dire 2011, je pense.
Et bah vous y êtes pas parce qu'il y a que Fedor Emelianenko qui a réussi à faire mieux. Il était invaincu depuis 2005.
Oh la vache!
Depuis 10 ans.
Ah mais oui, putain.
Et Fedor Emelianenko est resté invaincu 10 ans aussi, je crois, entre 9 et 10 ans. Donc, José Aldo a la streak la plus longue de l'histoire du MMA.
Incroyable. Oui, mais dans ma tête, j'étais en mode.
Ça durait
des victoires en tant que champion.
Que ça.
Mais,
ouais, c'est vrai que moi aussi, j'étais comme ça, Aurel, je sais pas pourquoi.
Ouais, non, c'est vraiment les victoires accumulées, quoi. Alors, question numéro. Tac, 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 tac. Question 8. 8. À combien s'élève le plus haut nombre de takedowns réussis en un seul combat?
22.
Pas le nombre de tentatives, le nombre de mises au sol réussies durant le combat.
Il y a des choix. Ah non, il y a pas de choix.
Je peux donner un indice, mais il faut être rapide.
Vas-y.
Alors, le combattant à l'origine de cet exploit porte, porte un chapeau très particulier avant sa montée dans la cage.
Je vais dire.
Ah, il y en a. C'est un piège.
21, c'est Khabib, ça, je sais que c'est Khabib, mais par contre, je sais pas combien c'est. Je crois que c'est 21. 21 ou 22.
C'est ta réponse définitive, 21
ou 22. Non, moi j'ai envie de dire. Est-ce que c'est Khabib ou est-ce que c'est Merab?
Y a un piège.
Je crois que c'est Merab. Hein.
Ah, faut vous décider.
Je vais dire Merab avec. C'est pas genre 11, un truc comme ça, je crois.
C'est plus. Le nombre de takedowns réussis pendant un combat, c'est plus. Donc toi, tu dirais.
Enfin... Non. Ah, c'est compliqué, là. C'est précis.
Hugo, combien tu dis?
Parce qu'il faut le définitive, nombre et la personne.
Moi, non, le nombre. 18.
Ouais, vas-y,
réponse définitive 18 donc.
Parce que le liste a besoin du nombre de la personne, Hugo.
21.
Et c'est une bonne réponse donc.
Oh, là,
21 réalisé donc en un seul combat par Khabib Nurmagomedov lors de l'UFC 160 en 2013.
Ok.
Voilà. C'était contre qui
Alors je me rappelle plus du tout du nom, mais bon, quiconque a déjà pratiqué un sport de combat, enfin réussir 21 takedowns en un seul combat, c'est quasiment sûr.
C'est énorme.
Ah, est-ce que je peux faire une petite parenthèse rapide?
Très rapide.
Je certifie sur l'honneur que je n'ai pas genre de page Wikipédia ouverte devant moi.
Ah mais j'avais pas pensé à ça. Tricheur, je te crois pas.
Non, mais on te fait confiance.
Parce que je suis très silencieux et je parle que pour donner une réponse.
Quand le navigateur internet a réussi à trouver.
Non, mais tu sais qu'il y a toi qui avais pensé en vrai.
Alors j'ai mon ordinateur devant moi parce que j'étais en train de regarder les pages de l'UFC pour les rankings et tout à l'heure. Mais là, il est éteint, il n'y a rien. Okay.
Moi, je fais confiance, étant donné que dans le Finistère, ils n'ont pas encore découvert Internet.
Déjà, on n'a pas d'électricité, donc bon.
Voilà. Question numéro 9. Allez, question numéro 9. Donnez le nom des deux seuls adversaires face à qui Georges Saint-Pierre a perdu.
Matt Hughes et...
J'aurais pas l'autre.
Forrest Griffin, je crois.
Non, c'est pas Forrest Griffin. Il y a Matt Hughes, effectivement, qui est un très très grand welterweight, et qui à l'époque était probablement le meilleur, d'ailleurs.
C'est pas Anderson ?
Non.
Benson ?
Non.
Je
vais donner un indice, mais alors faut vous dépêcher. Donc il y a effectivement Matt Hughes, les deux, et il a le même prénom. L'autre adversaire a le même prénom.
Matt Serra.
Bien vu.
Ah mais oui, Matt Serra, le plus gros upset de l'histoire.
Voilà. Bah, en tout cas, oui, à l'époque, c'était le plus gros upset. Ouais, clairement. Donc oui, c'est Matt Hughes et Matt Serra.
Je suis pas dans mon combat, là.
Surtout que... Je passe plus de temps avec Lounis et il parle énormément de la carrière de Georges Saint-Pierre.
Ouais, mais c'est le meilleur. J'y peux rien.
Et t'as bien raison.
Question 10. Bon, celle-là également, elle est assez connue, mais à quel âge John Jones est-il devenu le champion
des... 21.
Est-il devenu le champion des poids lourds légers de l'UFC?
C'est 23.
Il demeure... Vous avez répondu tous les deux 21, les mecs, c'était... Ouais,
non, j'ai dit 22,
moi. Il a dit 22.
Il a dit 22.
Mais c'est 23, je peux te le dire maintenant, c'est 23.
Le temps que la page Google se charge.
Je promets le nom.
Je rigole.
Bon, du coup, c'est effectivement 23 et c'était face à Mauricio Shogun Rua en 2011. Et ça reste, à l'heure actuelle, un record de précocité pour un champion de MMA.
Hugo, il te reste plus que 3 mois.
Ça va le faire.
Question 11. Alors celle-là, je pense pas que vous aurez le chiffre exact. Donc celui qui a le chiffre le plus proche gagne.
Ah, ça au plus proche.
Ouais. Combien de combattants brésiliens sont devenus champions UFC?
7.
10.
Vos réponses définitives?
Ah non, c'est plus. 12.
Ok, donc 12 pour Aurel. Ouais. Toi, tu mets combien
Moi, je vais mettre 13.
C'est 13. Alors c'est pas 13, mais c'est 13. Donc Hugo, tu gagnes, mais pour comment dire, c'est 15. Je vais pas tous les faire, mais il y a eu 15, je les ai comptés, mais il y en a eu 15.
Aldo, Oliveira, Pereira.
Il y a plus de champions brésiliens que d'Agestane.
Oui, largement. Oui.
Ah d'accord.
Non, les Brésiliens sont la plus grosse dynastie, en tout cas à l'UFC.
D'Agestane, il y en a deux.
Derrière les Américains.
Oui, derrière les Américains, effectivement. Question 12. Alors celle-là, elle est un peu piégeuse. Qui détient la plus longue série de défaites consécutives de l'UFC?
Ferguson à égalité, non?
Oui, avec qui?
Avec
BJ Penn,
ouais.
Bien, je vais donner un point à Aurel.
Bah, tu peux nous donner un point chacun.
Un point chacun, 0,5 chacun.
C'est beau, c'est magnifique.
Mais ça, c'est parce du sportsmanship, Aurel,
je suis ravi.
Exactement.
Allez, celle-là ne préparez-vous, là, c'est de la nostalgie si vous suiviez à l'époque. C'était pas il y a si longtemps que ça, attention. En juillet 2020, Gilbert Burns est contraint de déclarer forfait pour son combat face à Kamaru Usman pour le titre welterweight de l'UFC. Qui est le combattant qui le remplace à la dernière minute?
Jorge Masvidal.
Bien vu.
Ah, c'est lui.
Tout à fait. Donc on
est. Mais je suis un paillard ou quoi là aujourd'hui?
Ah ouais, on
c'est
est
en... hyper furtif ce soir.
On
c'est
est en pleine crise du Covid.
Malheureusement, le boîtier 4G dans le Finistère.
Voilà. Voilà.
Je vais avoir mon excuse, c'est parfait.
Hibernance et donc tombe malade en chopant le Covid 19. L'UFC se retrouve un peu dans la dans un problème.
Dans le pétrin.
Dans le pétrin et ils sont obligés de. Enfin, ils contactent Jorge Masvidal qui à ce moment-là est au pic de sa popularité, très éphémère. Mais donc ça fait et ça reste un des pay-per-view. Je crois les plus
populaires.
Ouais, il avait fait 1 300 000 ventes, je crois. Donc,
Tu vois, j'allais dire Nick Diaz, moi, mais non.
Et non. Et on arrive donc à la dernière question. À deux exceptions près, Conor McGregor n'a combattu depuis 2015 que dans une seule salle. Laquelle?
Madison Square Garden?
Non.
La T-Mobile Arena.
Bien vu.
Ah, c'était l'une des deux.
Oh là 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 là.
C'est une victoire pour
ouais,
Hugo.
Assez large. Hein.
Combien?
Attends, je compte.
9-3, un truc comme ça.
Ouais, 9-3, tout
3,
à fait.
Ouais. Bah écoute, je crois que je m'en sors pas mal, mais 3 points contre Wikipédia, c'est quand même pas donné.
Encore une fois, je promets vraiment, je suis moi-même surpris de ma performance.
Non, mais c'est bien, mais oui, c'est bien.
Bien joué.
C'est bien, bravo à Hugo et Aurel, tu reviendras plus fort.
Exactement, et je vais pouvoir préparer un quiz, j'adore préparer des quiz.
Il va nous préparer un truc.
Tu ne fais plus, à force de gagner, tu pouvais jamais les préparer.
Bah voilà, c'est ça, c'est un peu
bien.
C'est pour ça que j'ai perdu d'ailleurs.
Tu vas retrouver la hargne et l'envie justement de préparer
des quiz. T'as un peu reposé sur mes acquis, j'avais besoin d'un nouveau
peut-être.
Challenge.
Bah là, c'est bien, c'est
et
parfait.
Et voilà, donc merci Lounis pour ce quiz. Félicitations Hugo à ta victoire.
Bravo, est-ce, Hugo. Est-ce qu'on décernerait pas le titre d'encyclopédie finalement plutôt à Hugo qu'à Lounis?
Bah pour moi, faut attendre d'avoir d'autres défenses, tu vois. Pour moi, c'est...
Non, Lounis reste l'encyclopédie, c'est juste qu'il gère mal la pression.
C'est ça.
À part ça.
Non, mais j'avais envie de l'embêter un peu.
Lounis, et surtout, il a du mal sur la vitesse.
Oui.
Donc,
sinon voilà. Je les ai hein, la plupart du
c'est
temps.
C'est ça,
réponses,
évidemment.
Ouais.
Donc voilà. Donc félicitations Hugo pour ta victoire. Merci Lounis pour ce quiz.
Oui,
c'était technique. C'était le quiz puriste. On pourrait l'appeler
c'est
comme ça.
Tant que ça, mais ça, j'avais l'impression que ça allait. Mais
non,
okay.
Mais c'est surtout pour
les premières étaient un peu dures.
Voilà,
vrai.
C'est ça.
Moi, je l'ai senti vachement plus facile que le dernier que t'avais préparé, qui était quand même.
Ouais. Ah, je sais pas, peut-être. Voilà donc pour ce quiz, on va faire une autre petite pause musicale. Donc on s'écoute toujours, c'est quoi les jeunes, j'ai oublié.
C'est Vernipolis toujours.
Vernipolis, tout ça fait.
Et cette fois-ci, on va s'écouter Hécatombe.
Et ben on s'écoute Hécatombe et on revient juste après. À tout de suite.
We'll be right back. Nous sommes l'automne, le monde personne. Fuyons le monde et l'onde qui sonne. Prions quand même le soir qui tombe pour qu'on nous aime. Les yeux qui tombent.
Bagarre Club.
On est de retour en direct sur Prune, vous écoutez toujours le Bagarre Club. On va passer à la suite de notre émission, donc troisième et dernière partie. Avant qu'on entame le débat, je prends des nouvelles de notre reporter, notre envoyé spécial, Hugo, toujours présent.
Ah oui, je suis toujours
Hugo,
là.
Hugo, un mot sur la situation ici en Bretagne peut-être.
De manière surprenante, il fait beau, il ne pleut pas, c'est exceptionnel.
Merci Evelyne Delia pour ce rapport météo. Voilà, donc pour cette dernière partie, on va avoir 10 petites minutes pour aborder un sujet qui est quand même plutôt intéressant d'un point de vue vraiment tactique et technique. Lounis en a parlé dans son quiz, il a évoqué notamment Alex Pereira, et c'est vrai que c'est un combattant qui fait beaucoup parler de lui ces derniers temps.
Oui.
Alex Pereira, qui fait partie de ces combattants, qui a réussi une transition de combattant de kickboxing, donc kickboxing, boxe thaïlandaise, donc pied-point en gros pour faire très très gros. Pour ceux qui ne connaissent pas trop. Et du coup, il a switché vers le MMA pour un nouveau défi. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce débat, c'est les challenges, les nouveaux challenges d'un point de vue technique et tactique que ça peut représenter pour un combattant. Lounis, est-ce que tu peux nous en dire plus ?
Ben, le plus gros, alors déjà, les transitions de kickboxer vers le MMA ne sont pas nouvelles. Hein. Même déjà au niveau au tout début des années 2000, c'était déjà le cas entre, par exemple, Mirko Krokop, Wanderlei Silva. Et puis, donc, plus tard, on a eu des combattants comme Alex Pereira, tel que la cité à l'instant Aurel, et encore plus récemment Cédric Doumbé. Mais les enjeux principaux, c'est surtout... la boxe thaïlandaise fait valoir justement son arsenal davantage au niveau évidemment du striking mais aussi du clinch, donc en mettant justement les coudes, les genoux, les coups de pied et évidemment les coups de poing. Là où le bas blesse, c'est quand même mal, surtout à l'heure actuelle quand on regarde la génération de combattants qu'on a et en tout cas comment l'approche des arts martiaux mixtes est faite. C'est le sol et le grappling qui prend vraiment le centre, qui devient vraiment le socle principal justement d'un game plan pour un combattant de MMA. Voilà, la base la plus solide, c'est quand même le sol. Pourquoi ? Bah parce que le sol fait travailler le cardio et l'endurance à un niveau qui est quand même vraiment non négligeable. Hein. Dans le quiz, on a parlé très rapidement Magomedov, mais effectivement, quand on arrive à réussir 21 takedowns dans un combat, c'est pas ce n'est pas en restant debout justement qu'on va s'épuiser, certainement pas. Mais donc, la question qui se pose dans une transition, ça a été le cas pour Alex Pereira face à Jan Blachowicz, notamment. C'est
même face à Jiří Prochka, où il se fait amener au sol.
Oui. Comment je m'adapte justement face à un tout nouveau terrain que je ne connais pas, en l'occurrence justement le sol, quoi, le grappling.
Exactement. Et du coup, je vais lancer Hugo là-dessus. Hugo, toi qui fais du MMA, notamment, et qui d'ailleurs a fait du pied-point avant de faire du MMA. Pour un combattant, c'est quoi les enjeux principaux ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour appréhender cette nouvelle menace du grappling ?
Alors moi déjà, je suis
sans forcément prendre ton exemple à toi, mais voilà, c'était juste pour voilà.
Et c'est pour expliquer mon point de vue. Moi, je suis en amateur, donc c'est aussi. Enfin, ce qui se passe en amateur est très différent de ce qui se passe en professionnel à l'UFC, où c'est les meilleurs combattants du monde de cette planète. C'est un peu naze, on s'en fout. Mais voilà. Moi, quand je suis arrivé du pied-point, le sol, ça me faisait pas du tout envie. Et en fait, au final, je trouve que c'est quelque chose qui rebute assez les gens qui débutent au départ. Et en fait, au bout d'un moment, on commence à tomber amoureux un peu de cette dimension-là, de la dimension JJB lutte, en même temps qu'on se rend compte qu'en fait, c'est horrible et que c'est vraiment...
c'est très, vraiment, très douloureux. C'est vraiment
voilà.
Et
je pense que Lounis, tu peux confirmer, on a déjà eu des discussions là-dessus. Ouais, le striking est plus... je vais pas dire simple parce que ce serait pas le mot adapté.
Plus intuitif.
Confortable,
ouais,
je dirais.
Ouais. Plus confortable, voilà, confortable et intuitif que la lutte. Ouais.
C'est plus facile de se reposer un petit peu en striking et d'être un peu plus passif en striking, alors qu'en lutte et en grappling, donc au sol et au corps à corps, bah, en fait, si on se repose,
tu perds une prise,
il va t'étrangler.
En fait, tu peux pas lâcher tes prises de toute manière en lutte, parce qu'à partir du moment où t'es...
Bah, sinon, le mec, il va partir, tout
Alors,
simplement.
J'allais voilà. dire enlacé, mais avec de très grosses guillemets, vraiment. Enfin, à partir du moment où t'as deux combattants qui sont aux prises, si tu relâches d'un iota,
Une stratégie. Je le recite encore, mais c'est ce que, sans rentrer dans les détails, c'est ce qu'avait fait Khabib Nurmagomedov contre Dustin Poirier, où il l'avait laissé, entre guillemets, Dustin Poirier le prendre en guillotine parce qu'il avait une stratégie derrière. Mais en temps normal, effectivement, on ne se met pas dans une situation assez risquée.
Après, voilà. Je pense que Khabib tient moins de l'humain que surhomme. Aussi, voilà. En fait,
mais il l'a fait. Enfin, bref.
Et du coup, la question qu'on peut se poser, c'est pour un combattant qui a été habitué au Glory, à l'Expera, je pense à l'Expera, tout ça.
Oui.
On peut parler de Tialigan,
on peut parler d'Adesanya,
on peut parler d'énormément de monde. Tactiquement, d'un point de vue purement tactique, pas forcément dans la préparation avant, mais une fois que tu arrives à la cage, tu es un mec, voilà, tu as fait ta transition, tu as fait quelques mois de grappling pour te mettre à niveau, ou peut-être quelques années à la limite.
Intensif quand même.
Intensif certes, mais voilà, et tu arrives face à un mec qui a fait ça toute sa vie, qui en a bouffé des années et des années, qui a fait ça toute sa jeunesse. Bah, forcément, les mecs, ils sont pas bêtes, ils vont pas essayer d'aller rivaliser en grappling, mais quelles sont les clés justement pour essayer de rivaliser? Voilà, est-ce que c'est le maintien de la distance? Est-ce que...
J'ai une donnée qui provient de ESPN, donc média MMA très.
Sportif, c'est sportif global.
Ouais, média, excuse-moi, sportif très sérieux et MMA aussi. Et qui a des très bonnes bases en MMA. Et en fait, j'ai des données où en fait ils ont pris tous les champions UFC jusqu'à 2018 et ils ont regardé les styles principaux de chaque champion et ils les ont rassemblés en des catégories donc. On a lutte,
jiu-jitsu, kickboxing, boxe anglaise,
boxing, voilà. et kickboxing, muay thai, taekwondo, karaté. Et en fait, quand on regarde ce graphique-là, on se rend compte que il y a eu 28 champions jusqu'à 2018 en lutte, ce qui n'est pas surprenant. Enfin, on a déjà compris que si on a une grosse base en lutte,
c'est capital.
La porte, tout est ouvert, quoi. Kickboxing Muay Thai, donc je vais les mettre ensemble parce que on parle d'une spécialité striking là. On a 10 champions de jusqu'à 2018. Ce qui fait que en fait c'est le quatrième style le plus
prôné par les champions.
Voilà, plébiscité par les champions, qui a ouvert la voie à des champions. Derrière, du coup, la lutte en première position, le jujitsu en deuxième et la boxe en troisième. Et en fait, je pense que ce qui est intéressant dans ce graphique-là, c'est que on voit que la lutte, c'est quelque chose qui est omniprésent en MMA. On
Absolument.
Peut pas l'éviter. Et je crois qu'on avait déjà eu ce débat-là, qui est très intéressant d'ailleurs, tous les quatre sur ce sujet-là, où en fait on disait qui gagne entre quelqu'un qui est extrêmement fort en striking et quelqu'un qui est extrêmement fort en grappling.
La plupart du temps, c'est plutôt le grappleur, mais
Exactement.
Pour revenir à ce que disait Aurel, je pense que l'une des clés justement pour un vétéran du kickboxing quand il arrive en MMA, c'est de faire justement d'adopter plus ou moins la même stratégie que Pereira ou Adesanya, c'est-à-dire d'énormément travailler sur les feintes et sur les contres, parce que justement les grappleurs essayent de trouver des ouvertures pour saisir une jambe, attaquer le double leg ou essayer justement de saisir leur adversaire. Et justement pour un kickboxer, ce qui est intéressant, c'est de travailler justement sur les contres, sur les feintes,
et
sur toutes les fausses informations en fait qu'ils peuvent envoyer à leur adversaire pour après venir les cueillir.
Et après, évidemment, il y a le côté défensif purement une fois que tu es dans le contact, mais moins dans l'approche tactique. Mais ça, c'est du travail technique, c'est de la répétition de mouvements.
C'est ça,
voilà,
tactiquement, ça va beaucoup être, comme tu l'as dit, Lounis, C'est Georges Saint-Pierre qui a fait ça face à BJ Penn, où il a surchargé le système nerveux de BJ Penn en faisant énormément de feintes. Exactement. Et ça lui a mené à la victoire au deuxième combat assez facilement.
Donc voilà un petit peu pour cette petite discussion. En fait, ce qui est intéressant avec ce sujet, c'est que le MMA, c'est de plus en plus populaire et beaucoup ont envie de s'y essayer. Et du coup, certains donc, qui viennent du kickboxing ou qui viennent d'ailleurs, on pourrait se transposer ce débat-là à d'autres transitions, de lutteur à combattant MMA, voilà. Mais voilà, c'est essayer de comprendre qu'en fait, en MMA, il y a tellement de clés, tellement de choses différentes, et c'est ça qui en fait un sport extrêmement complet, et qui en fait peut-être le sport de combat le plus technique et le plus tactique qui puisse exister, tout simplement. Voilà, c'est pour ça qu'on a fait un petit peu ce débat, c'est pour comprendre vraiment à quel point c'est un sport vraiment complexe et complet. Voilà.
je n'aurais rien d'autre à ajouter. Je suis tout à fait d'accord avec toi.
Et ben voilà, du coup, pour notre émission, on a fait le tour. Hugo, de retour dans les studios la semaine prochaine ?
Ah, bah oui, évidemment.
Ah, quand même, pour débriefer avec nous l'UFC 301. Alors, je tease comme ça, je vais peut-être faire une petite chronique mythique un petit peu différente de d'habitude. J'en dis pas plus, même mes camarades n'en savent pas vraiment. Mais voilà, quelque chose d'être. Peut-être d'un petit peu plus grand public et moins niche. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un petit peu une nouvelle émission, tout simplement. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé une bonne soirée en notre compagnie. Vous pouvez nous follow sur Instagram, Twitter, @lebagarreclub. N'hésitez pas à nous poser des questions, ce sera un plaisir de vous y répondre. Merci à tous de nous avoir écoutés. On vous souhaite une très bonne soirée en direct sur Prune. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Bonne soirée.